Alors, j'ai écrit un livre qui a eu deux éditions, qui s'appelle Les putains du diable, qui est une expression de Luther pour précisément désigner les sorcières. Parce qu'il faut savoir que c'est une invention catholique, du pape et de l'Inquisition, et qu'on aurait pu penser que les protestants s'opposeraient à ce genre de bêtises, mais pas du tout, ils ont véritablement été encore plus sévères et ils ont fait une concurrence aux catholiques dans la répression des sorcières. Donc c'est les putains du diable pour Luther et c'est des chiennes brûlantes pour Calvin, voilà, en gros. Comment je suis arrivée à ce livre? Je crois que l'idée m'en est venue en lisant un texte de Freud qui parlait d'un livre de la fin du XVe siècle qui s'appelait le Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières. Ça m'a intriguée et donc j'ai pu mettre la main sur une traduction, bien évidemment, puisque ce sont des inquisiteurs allemands qui ont écrit ce livre. J'ai été stupéfaite de ce qu'on disait des femmes, on y reviendra, ce qu'on faisait dire aux sorcières et sur la procédure suivie, parce que ce livre est un véritable manuel. C'est le premier livre de poche pour que l'inquisiteur regarde ce qu'il y a à faire et la question qu'il doit poser sans qu'il soit vu des autres. Donc il a tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut dire, etc., qui est le côté procédure pénale. Donc côté juridique, côté philosophique ou même pas théologique ou médical, le discours sur les femmes en général, vous allez voir que ce sont toutes des imbéciles au sens propre du terme, pourquoi les sorcières, et là, dans ces livres, ces inquisiteurs ou ces magistrats laïcs reproduisent texto les aveux des sorcières, c'est qui vont finalement les condamner. Et dans ces aveux, on voit tout ce que fait la sorcière. Elle a dit ceci, elle a dit cela. Ces aveux, y compris dans des ouvrages très érudits comme ceux de Bodin, bien connu, Jean Bodin, peuvent être même en patois. Tout ça mélangé avec des discours théoriques en latin, en grec, en hébreu. Enfin, c'est la grande marmelade dont il sort quand même les procès en sorcellerie, au-delà de ces discours imaginaires. Vous allez voir que c'est invraisemblable ce qu'on fait dire aux sorcières. Je dis bien fait dire parce que soit elles inventent, soit on leur souffle, comme c'est sous la torture, il vaut mieux dire n'importe quoi si ça peut faire plaisir au juge. Et vous allez voir que c'est pas n'importe quoi. Je resitue. Il faut savoir que les procès des sorcières, on va voir quel type de sorcières, ça n'est pas un bref épisode de l'histoire, hein, c'est pas du tout marginal. Il s'étale de la fin du XVe siècle à la fin du XVIIe siècle où ils seront interdits, dans toute l'Europe et même jusqu'aux États-Unis avec le fameux procès à la fin des sorcières de Salem. Donc parmi les condamnés, mais vous l'avez déjà compris, parmi les condamnés pour sorcellerie, il y a 80% de femmes. Les quelques sorciers, il faut bien qu'il y en ait quelques-uns, sont eux des pauvres maris que leurs épouses ont traînés au sabbat, malgré eux. Ils ne sont pas fautifs. Donc inquisiteurs et magistrats qui vont juger ce type de procès le répètent à satiété. La sorcellerie est un crime de femme, c'est l'hérésie des sorcières. Ceux qui participent à ces procès, donc des juges ecclésiastiques, les inquisiteurs, des juges laïcs, les magistrats, les bourreaux, les confesseurs, parce qu'il y a des confesseurs de sorcières, c'est à 100% des hommes. Bon, vous voyez déjà un peu la disproportion. Alors, ce qu'il faut bien savoir en mettant le cadre à la fois temporel et géographique, c'est qu'il s'agit de sorcellerie démoniaque. Donc, il va faire intervenir le diable et le diable des chrétiens. Les sorcières dont nous allons parler ne sont pas des petites vieilles qui vont faire des potions avec des herbes qui se trouvent à l'orée du bois, et même qui se revendiquent sorcières ou qui se font payer leurs services. Il s'agit, c'est ça qui est important, il s'agit de n'importe quelle femme qui ne sait pas avant d'être accusée qu'elle est sorcière. Je précise que quand je vous dis ce ne sont pas des vieilles femmes au nez crochu avec un truc pointu, et vous allez comprendre pourquoi après, ce sont le plus souvent des jeunes et jolies femmes et riches. Et on voit encore des maisons de sorcières au Pays Basque, à Saint-Pé, qui sont des maisons cossues et qui valent très cher comme résidence secondaire actuellement. Même les sorcières, bon, ne savent pas qu'elles sont sorcières. Et il y en a une qui demande naïvement au juge, monsieur le juge, est-ce qu'on peut être sorcière sans le savoir? Bon, je parle de sorcières, mais évidemment, c'est des soi-disant sorcières. Et on est tout de suite avec des innocentes. Et vous voulez aller voir que les crimes dont on les accuse, évidemment, les innocentes à nos yeux aujourd'hui. Donc, dans la doctrine qui est appelée démonologie, toute femme est une sorcière potentielle qui va le devenir réellement par son pacte avec le diable. Cette doctrine est élaborée par les juges, donc inquisiteurs et magistrats, à partir, je l'ai dit à l'instant, des aveux des sorcières, aveux extorqués sous la torture. Et donc, je vous le disais aussi, je ne vais pas faire l'historique des procès, mais partir des livres de l'époque, ceux des inquisiteurs, des juges, d'un confesseur de sorcières, de médecins, enfin, tous ces messieurs qui ont participé peu ou prou au procès. Et il y a une grande homogénéité de ces procès, donc dans ces plus de deux siècles, pour la raison qu'ils se réfèrent tous au livre pionnier dont je vous ai parlé à l'instant, le Malleus Maleficarum des inquisiteurs allemands de la fin du XVe siècle. Et ils se répètent les uns les autres, ils reprennent la procédure, et puis évidemment, selon la région, ils y ajoutent une petite touche locale, des spécificités et des nouveautés aussi, comme le sabbat qui n'apparaît pas au début et qui va finalement intervenir par la suite, ou la marque du diable, donc je vous parlerai par la suite. Alors ensuite, mais je ne vais pas vous les citer ici, il y a tous ces livres donc de juges dont je me suis inspirée, mais comme il y a cette homogénéité, je peux faire une sorte de typologie des sorcières et puis aussi des procès. Alors, je sors du lot un livre, parce que là, ça m'étonne toujours, le livre en France de Jean Bodin bien connu, surtout de nos étudiants, qui est le célèbre théoricien de la souveraineté de l'État au XVIe siècle, des six livres de la République, encensés, etc., et dont on ne cite jamais dans sa bibliographie le livre qui a eu plus d'édition et de résonance à l'époque que les fameux six livres de la République. Ce livre s'appelle « De la démonomanie des sorciers », il date de 1580. Alors vous vous étonnez qu'il n'y ait pas des sorcières, mais Jean Bodin s'en explique tout de suite, dès le début du livre. Je dis des sorciers parce que, en français, le masculin l'emporte sur le féminin, et s'il suffit qu'il y ait un seul sorcier pour une multitude de sorcières, et je suis obligé de dire sorcier. Voilà. Et d'emblée, il dit qu'il s'agit bien de sorcières. Alors, il y croit dur comme fer, il faut toutes les brûler. Ce livre est tellement ridicule, reprenant des arguments que je vous donnerai tout à l'heure, qu'on n'en parle plus, d'autant plus que les livres d'histoire des idées politiques ont pour la plupart été écrits auparavant par des hommes. Alors, ces ouvrages vont reproduire les aveux des sorcières, ce que je vous ai dit, ce qu'elles font, et puis cette procédure également dont je vous parlais à l'instant. On a donc affaire à la fois à une théorie, une doctrine qui est partie d'une jurisprudence, parce que c'est partie de la jurisprudence des juges pour élaborer la théorie avec leurs propres commentaires. Et de l'autre, on a une pratique judiciaire, d'un côté un imaginaire avec les aveux des sorcières, et de l'autre côté une sinistre réalité qui sont que les procès, que les juges racontent dans leurs écrits et se vantent. Il y a un juge de tel endroit qui se vante d'avoir brûlé plus de sorcières qu'un juge du Sud. Il se vante d'avoir trouvé des nouveaux moyens de torture. Enfin, ils sont très contents de ce qu'ils ont fait. Et donc, ils disent clairement les choses. Et c'est à partir de ces textes et non pas d'une histoire proprement dite que je vais vous parler du phénomène. Donc d'abord, l'imaginaire, de quoi les sorcières sont accusées. Comment les choses se passent pour arriver à ce pacte avec le diable et ses conséquences. Alors, une femme rencontre en chemin le diable, ou bien par la suite elle va s'envoler par la cheminée sur un balai, enfin ça c'est l'image d'Épinal, au sens propre du terme, et tout de suite, et c'est pour ça que je regardais, mais je vous trouve encore un petit peu jeune pour et vos chastes oreilles pour tout ce qu'il va avoir, qui va être dit, parce que le pacte avec le diable, c'est l'accouplement avec le diable, et c'est ça, et ça d'abord, qui constitue le crime initial. C'est ce pacte sexuel qui va faire devenir réellement et irrémédiablement une femme sorcière. Car, et je vous cite un des inquisiteurs, « Satan sait que les femmes aiment le plaisir de la chair et compte par un tel chatouillement les retenir en son obéissance. » La femme a le diable au corps. Et vous comprenez maintenant pourquoi il vaut mieux que les sorcières soient jeunes et jolies. Parce que le diable a mieux la chair fraîche. Alors on peut se demander, mais comment est-ce qu'on peut accuser une femme de coucher avec le diable? Est-ce que le diable n'est pas un pur esprit? Ce qui était véritablement le cas, la doctrine de l'Église avant. Mais les inquisiteurs, en réponse à tout, ils décrètent que le diable peut prendre une forme physique. Mais alors, dans ce cas-là, comment se fait-il qu'on n'ait jamais vu une sorcière coucher avec le diable? Surtout qu'elle le fait en plein champ et tout ça. Bon. Alors là, il y a encore, parce que la doctrine s'élabore au fur et à mesure, hein, d'une façon très très logique, si vous n'êtes pas sorcier ou sorcière vous-même, vous ne pouvez pas voir la sorcière couchée avec le diable, mais vous voyez des femmes dans les champs qui se baladent avec les jambes en l'air ou qui courent dans les champs. Elles doivent être en train de coucher avec le diable ou être poursuivies par le diable. C'est évidemment les aveux des sorcières qui vont donner alors des détails absolument scabreux. Et les juges sont friands de ce genre de détails, et c'est dans leurs interrogatoires, comment est le sexe du diable? Alors je vous lis, pour je n'invente rien. Pour l'une des sorcières, il est toujours long d'une coudée. Pour l'autre, le membre du diable, s'il était étendu, est long d'environ une aune, mais il se tient entortillé et sinueux en forme de serpent. Pour une autre, il est mi-partie moitié de fer, moitié de chair de tout son long, de même les génitoires. Il est fait d'écailles qui se détendent et qui blessent évidemment la pauvre sorcière quand il se retire, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit un vrai plaisir pour elle d'aller avec le diable, puisque le diable est par définition trompeur. Alors elle va renouveler cet acte initial au sabbat. Alors au sabbat où elle s'envole, donc on a mis un bouc à sa disposition à la sortie de la cheminée quand le balai n'est pas suffisant. Et là, la première chose qu'elle fait au sabbat, c'est, je cite, hein, parce que vous allez dire je suis grossière, le baiser au cul du diable. Donc la première chose qu'elle fait, elle baise le cul du diable, elle couche avec lui et ensuite elle va coucher avec d'autres démons paillards et luxurieux, je cite encore, des crapauds, des boucs, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà, en gros pour le sabbat, mais j'insiste pas là-dessus, il y a beaucoup à dire. En tout cas, en contrepartie de ce qu'on appelle une paction, qui est ce pacte qui est véritablement à l'origine, l'acte initial, qu'elle renouvelle ensuite au sabbat, eh bien, en échange, elle acquiert une grande capacité de nuisance qu'elle exerce contre les biens, contre les animaux, contre les êtres humains. Mais comme la femme est faible par nature, comme on aura l'occasion d'y revenir plus loin, évidemment, vous n'imaginez pas qu'une femme puisse faire quelque chose de bien, certainement pas, mais de mal non plus, parce qu'elle n'a aucune puissance. Donc c'est le diable qui agit par son intermédiaire. Et par conséquent, ses pouvoirs ne peuvent être que maléfiques. Donc elle va provoquer toutes sortes de dégâts, elle s'en prenne aux récoltes, ce qui est particulièrement grave dans cette société rurale, où elle se recrute en quasi-totalité. Alors je cite encore, elles font pulluler chenilles, rats, criquets, sauterelles et autres vermines pour gâter les moissons et les fruits. Elles ont dans leur pouvoir une météorologie bien particulière et en particulier la capacité de provoquer les orages. La sorcière explique comment elle fait. Pour faire tomber la grêle, elle creuse avec ses mains un trou qu'elles remplissent de leur urine ou de tout autre, je cite encore, de tout autre pisset. Elles remuent avec leurs doigts et la grêle tombe. Et alors les naufrages aussi leur sont imputés. Évidemment, elles provoquent des naufrages pour faire disparaître leurs maris qui sont matelots, puisque beaucoup sont marins, en particulier en Aquitaine, dans le sud-ouest, où ils vont pêcher la baleine au-delà de Terre-Neuve. Alors les sortilèges s'abattent aussi sur des animaux domestiques. Elles envoient un temps aux bêtes de somme pour les tuer. Elles transportent le lait d'une vache dans leur vache qui n'en donnait pas. De même qu'elles transportent les récoltes d'un pré. Les blés sont bien mûrs dans leur pré qui n'en avait pas. Évidemment, en focalisant les maléfices sur les récoltes ou les animaux de la ferme, ce sont des êtres humains qui sont atteints puisqu'ils sont privés de leurs moyens d'existence. Donc, disent les inquisiteurs, c'est une très grande injure faite aux hommes et à Dieu, bien sûr. Mais les hommes peuvent être touchés directement dans leur chair par la maladie ou la mort. Alors, l'empoisonnement, c'est une idée bien ancienne, l'empoisonnement qui est par excellence un crime de femme, est le mode préféré. Et donc, Satan va apprendre à ses suppôts, à ses sorcières, diverses recettes, des mixtures à boire, ou bien des poudres à jeter sur les vêtements de la personne ennemie qui mourra, évidemment, après d'affreuses maladies, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc, évidemment, les décès sont fréquents à cette époque, et en particulier les décès de nouveau-nés. Donc, aussitôt, ils vont être attribués aux sorcières. C'est pourquoi les sages-femmes sont suspectées d'emblée de sorcellerie, comme pour les avortements qui sont également nombreux et qu'elles pratiquent, parce qu'évidemment c'est interdit. Alors au XVe siècle, pour vous dire comment elles pratiquent, la sorcière va enlever le nourrisson des bras des parents, voilà la suite, qui est décrite en particulier par Nider dans un livre qui s'appelle « Le fornicarius, la fourmilière » au XVe siècle, après avoir enlevé le bébé. Elles le font cuire dans un grand chaudron, elles en dépècent les membres, elles réservent le liquide dans une outre pour le boire, et avec la partie la plus grasse, avec les graisses, elles font des onguents, en particulier qui vont servir pour enduire le bâton qui leur permettra de sortir par la cheminée et de s'envoler, d'après les aveux des sorcières. Mais les morts de nouveau-nés sont une réalité, et en particulier les parents, comme il n'y avait pas le chauffage central, couchaient le bébé entre deux dans la nuit et très souvent étouffaient le bébé. Donc c'est une sorcière qui aurait, là encore, exercé ses pouvoirs. Donc vous voyez que l'espèce féminine est majoritairement représentée en matière de sorcellerie, mais tous ces dégâts, finalement, atteignent le mari, puisque tout ça, que ce soit bête, bien, femme, enfant, tout ça, c'est sous la coupe du mari. Mais celui-ci, et on va retrouver l'obsession sexuelle de nos inquisiteurs et magistrats, ceux-ci vont être indirectement victimes de tous ces sortilèges. Et dans leur définition même, c'est-à-dire dans leur puissance sexuelle, par un sortilège qui s'appelle le nouement de l'aiguillette, on noue une cordelette à l'insu du mari, là, dans son dos, et paf, il devient impuissant. Il faut bien que ce soit un sortilège, parce qu'il est impensable, dans l'esprit de l'époque, et je pense encore aujourd'hui, que cette impuissance vienne de l'homme lui-même. Donc ça ne peut être que l'œuvre du diable au travers d'une femme. Or, les hommes, à cette époque, ce qu'on connaît mal du XVIe siècle en particulier, sont véritablement obsédés par la perte de leur virilité, qui est aussi une perte de leur puissance sociale, politique, etc. Montaigne en particulier dit qu'on ne parle plus que de ces questions d'impuissance. Rabelais, dans le tiers-livre, raconte que Panurge craint de ne pouvoir combler son épouse. Je le cite, « Tous les hommes sont en danger permanent d'être cocus, qui n'abondent pas toujours bien de quoi payer et satisfaire au contentement de notre femme. » Donc tous les démonologues vont consacrer, eux, de longs développements à l'aiguillette, qui atteste donc une fois de plus de cette obsession sexuelle. Et cette défaillance vont donner lieu à des procès très 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 spécifiques qui sont les procès en impuissance. L'expert va être très scabreux dans la procédure, où des experts, par exemple comme Ambroise, le chirurgien Ambroise Paré, vont être amenés à mesurer la tension élastique de la verge du mari qui est accusé d'impuissance. Voilà. Donc dans l'imaginaire masculin qui fonde l'idéologie démonologique, le sorcier, bon, c'est forcément une sorcière. Et c'est contre le sexe opposé, c'est-à-dire contre les hommes, que la sorcière use des pouvoirs immenses que lui a conférés le diable. Et qui vont donner lieu à des procès bien particuliers, des procès qui vont permettre d'éliminer ces dangereuses créatures, si contraires à l'ordre de la nature voulu par Dieu. Alors venons-en maintenant à ce côté procédure, c'est-à-dire à ce qui s'est passé réellement et que nous racontent encore tous ces magistrats. Les procès pour sorcellerie, on va voir que ce sont des procès spéciaux. Les procès pour sorcellerie sont dits mixtes, parce qu'ils sont menés à la fois par des juges ecclésiastiques et par des magistrats laïcs. Alors à ces magistrats laïcs, l'Église n'a pas le droit de verser le sang, or on sait bien que ça va se terminer par la mort de la sorcière, donc ces magistrats laïcs, à la fin de l'Inquisition, qui est véritablement l'enquête, hein, c'est eux qui vont donner la sentence, qui va être évidemment une sentence de mort, et c'est eux qui vont faire exécuter la sentence. Et de plus en plus, les juges laïcs, ils en ont un peu assez d'être comme ça au dernier rang, et ils vont prendre de plus en plus de place dans la procédure en poussant dehors les inquisiteurs qui sont des envoyés de Rome, où on peut voir le combat à l'époque déjà entre, au-delà des sorcières, hein, entre l'Église et l'État. Ce ne sont pas les dommages, on l'a vu, qui sont causés par les sorcières, que je vous ai décrits sur les récoltes, etc. Ça, ce sont des preuves subsidiaires, ce sont en quelque sorte des dommages collatéraux. Ils vont être cités dans le procès comme preuve, mais ils ne forment pas l'objet de ces procès. Le procès, le crime, c'est véritablement le pacte diabolique, et le pacte diabolique, c'est d'avoir couché avec le diable. Et donc, les juges vont s'efforcer de mettre en avant l'accointance d'une femme avec Satan pour pouvoir la déclarer sorcière et poursuivre le procès. Alors, les procès sont truqués, les preuves sont truquées, et le seul but de parvenir à la mort de la coupable, qui en fait est condamnée d'avance. Étant donné la gravité de l'enjeu, du crime, qui est plus grave que le crime contre les hérétiques, les vaudois, les cathares, etc., c'est beaucoup, beaucoup plus grave, une procédure ouvertement dite extraordinaire est suivie, qui est donc à l'écart des formes habituelles du droit civil. Et là, je vous cite encore notre grand juriste Jean Bodin. Il ne faut pas s'arrêter aux règles de droit, mais au contraire, c'est droitement procéder selon l'ordre du droit de laisser l'ordre du droit. C'est donc l'inquisition au sens propre du terme, puisque dans une procédure ordinaire, c'est le cas en Grande-Bretagne par exemple, il faut une accusation pour démarrer un procès. Dans l'inquisition, le juge, le magistrat, l'inquisiteur peut se saisir de lui-même d'une affaire. Ça peut être bien sûr sur accusation, mais ça peut être sur rumeur, sur la fama, sur ce qu'on appelle le bruit. Donc la voie est ouverte dans cette procédure, procédure d'exception, non seulement au refus des garanties légales pour la défense, mais aux mensonges et autres moyens que nos juges appellent eux-mêmes des moyens cauteleux et qui sont fortement encouragés. Alors, rapidement, l'avocat n'est pas choisi par la prévenue, mais par le juge. Et il doit plaider à charge. Il doit plaider à charge contre sa cliente, sinon il va être accusé de sorcellerie. Donc il n'a pas le choix. Même obligation pour les témoins, évidemment. La notion de témoin est comprise très largement. Dans une procédure ordinaire, les criminels, ceux qui ont un lien de parenté, les époux de l'accusé, les femmes à cause de, je cite, de l'imbécilité de leur sexe, les enfants, bien sûr, n'ont pas le droit de témoigner. Et bien si, dans ces procès extraordinaires, ils vont avoir le droit de témoigner, et ça va avoir des conséquences, évidemment. Les prostituées non plus n'ont pas le droit, et encore moins les sorcières déjà incarcérées, qu'on pousse à dénoncer d'autres femmes. Hein. Alors, pour donner une apparence juridique à leurs investigations, les juges vont donc rechercher des preuves matérielles, et aucun problème s'ils ne les trouvent pas, puisqu'ils affirment que bah, si on ne trouve pas ces preuves, c'est que le diable, puisque c'est le diable, il les a subtilisées. Vous allez voir qu'à chaque fois, ça disparaît comme ça. Donc, premier acte, la perquisition au domicile de la suspecte. On cherche, malgré tout, s'il n'y aurait pas un pacte signé par elle. Et on cherche d'autres indices. Alors, je vous cite encore. Autres indices pourraient être des crapauds, des os d'enfants, des graisses et poudres puantes et autres choses semblables dont les sorcières sont ordinairement pourvues. On ne trouve rien de tout ça, ça n'a pas d'importance. Et donc, on va emmener la sorcière pour être jugée. Ils inventent toutes sortes de preuves. Hein. Par exemple, une sorcière est une femme qui est censée être incapable de pleurer. Mais si elle verse des larmes, ce qui doit être quand même assez fréquent après la torture, c'est une ruse du diable ou une simulation, c'est la sorcière qui aura mouillé avec son crachat ses yeux. De sorte que si elle ne verse pas de larmes, elle est coupable, et si elle en verse, ce n'est pas une preuve de son innocence. Alors au XVIe siècle va apparaître un autre mode de preuve que je vous citais tout à l'heure, qui est la marque du diable, et qui devient là un indice très fort en matière de sorcellerie. Alors la marque du diable, ça peut être une ancienne cicatrice, un grain de beauté, parfois il n'y en a pas, hein, et donc il faut vraiment trouver cette marque du diable. Mais le principe, c'est que c'est un tout petit espace sur la peau qui est soi-disant insensible. Donc, si on touche cet endroit-là et qu'il est insensible, c'est qu'on a affaire à une sorcière. Mais seulement, comme on ne voit pas où est cette marque, il faut la chercher. Alors, on prend des poignards, une aiguille, et vas-y que je te pousse, on tâte un peu partout, on enfonce l'aiguille qui parfois se casse dans les chairs, et normalement, la sorcière hurle évidemment de douleur, et normalement, elle Si elle est sorcière, elle ne devrait pas pleurer ni hurler, mais c'est encore le diable qui l'a fait crier. Évidemment, on l'a déshabillée complètement, elle est nue, on prend une chandelle, et comme le diable aime les parties les plus honteuses du corps, on va aller brûler avec la chandelle les poils du pubis, toujours pour trouver la fameuse marque. Et puis dans la foulée, et ça c'est un confesseur de sorcière qui en témoigne, eh ben, on viole la sorcière, voilà. Parfois, ça c'est encore un confesseur qui raconte ça, pour découvrir la marque du diable, on utilise, je cite, des aiguilles trompeuses ou fabriquées en sorte que quand on veut, elles entrent et blessent. Quand on ne le veut pas, elles semblent entrer dans la chair, bien qu'elles n'entrent qu'en elles-mêmes, comme les couteaux des joueurs de passe-passe. Alors évidemment, ben, elle a pas mal, là. C'est insensible. Hein. Ben, alors évidemment, l'essentiel, la reine des preuves, c'est ce qu'on appelle la probatio probitissima. Ce sont les aveux, et les aveux sont indispensables. Et on le voit aujourd'hui, hein, ce type de procès qui peuvent avoir lieu. Comment obtenir l'aveu? Bon, il faut commencer par des choses légères, pour mettre l'accusé en confiance. Donc on introduit dans sa cellule des amis ou d'autres détenus pour en tirer la confession, tout en plaçant des espions à l'extérieur pour recueillir cette confession. Les fameux inquisiteurs allemands dont je vous parlais sont très prolixes en méthode reconnue parfois même, je vous le disais, cauteleuse. Une des plus sûres, évidemment, étant de promettre l'impunité à la sorcière si elle avoue. Et les inquisiteurs précisent bien dans leur propre manuel de procédure que, bien entendu, il faut lui promettre qu'elle ne sera pas tuée, mais il ne faut surtout pas lui laisser la vie, puisque l'aveu va au contraire constituer son passeport pour le bûcher. Alors la sorcière se plaigne, les juges, elle est souvent butée, elle ne parle pas. Évidemment, c'est qu'elle est soumise par le diable au charme de taciturnité. Ou bien même, elle a l'audace de nier. Donc il faut passer à la manière forte, qui est d'abord la territio, la terreur. Il faut lui faire peur. Donc on lui fait entendre de la pièce à côté, de la chambre de la question étant la torture, des cris épouvantables de quelqu'un qui serait torturé, et si elle persiste dans ses dénégations, on va livrer la sorcière à ses instruments de torture. Alors ceux-ci sont très divers. Dans la relation qu'ils ont faite de leur procès, les juges les décrivent, mais avec un luxe de détails. Bodin cite 50 manières de torture et marque sa préférence pour la torture de Florence, qui consiste à empêcher la personne de dormir. On peut parfois mettre une femme sur une chaise avec une corde au cou et il ne faut absolument pas qu'elle bouge, sinon elle va être étranglée. On lui met des pinceaux sous les ongles pour lui arracher les ongles. Et puis il y a différents modes d'écartèlement. Je vous en passe. Sous le coup de la torture, mais aussi des effroyables conditions de détention, la sorcière finit par avouer. C'est une confession qui est qualifiée de spontanée par les inquisiteurs. S'il lui arrive évidemment de se rétracter après la torture, ça compte pas. Elle a dit la vérité, tout ce qu'elle a dit avant et ce qu'elle dira après, ça n'a pas d'importance. Donc la sentence de mort peut être délivrée. Alors là, je cite encore notre grand juriste Bodin, la sorcière peut rôtir et brûler à petit feu. Et Bodin ajoute, parce qu'il en a assez de tous ces gens qui font de la sentimentalité, il ajoute que c'est un feu qui, après tout, je le cite, ne peut durer qu'une heure, voire demi, avant que mort s'en suive. Et donc il dit que c'est, je le cite encore, une mort exquise. Alors vous imaginez le brasier, Michelet, dans son livre La sorcière, en a fait tout un exposé extrêmement lyrique. Mais enfin, le brasier, il y a une odeur absolument dégoûtante qui se répand dans toute la ville. Ça attire tous les curieux. Le but, avec en particulier cette odeur, c'est de dissuader d'autres femmes de devenir sorcières en disant « voyez ce qui vous arrive ». Alors parfois, il y en a une qui arrive à se retirer ses liens et à s'échapper en flammes du feu. Elle est rattrapée par le bourreau, elle est remise sur le... Enfin, il y a du spectacle, les personnes n'ont envie de manquer ce spectacle. Alors pendant que le feu brûle là, tout doucement, enfin plus ou moins, les juges et inquisiteurs vont faire un bon repas à côté parce qu'ils ont évidemment saisi tous les biens et l'argent de la sorcière. C'est pour ça que je vous disais que la sorcière, on a intérêt à ce que ce soit pas une pauvre petite à l'oreille du bois. Il vaut mieux qu'elle soit riche. On saisit ses biens et puis ils font un bon gueuleton et puis ils se partagent le reste. Alors l'élimination des sorcières va devenir de plus en plus massive et entre autres, on a multiplié la possibilité d'être témoin. Alors les enfants, en particulier, ben, ils s'en donnent à cœur joie, et ils vont dénoncer, y compris leurs parents, enfin ils n'ont pas du tout conscience de ce qu'ils font. Ils dénoncent à tout va, mais alors le pire, c'est qu'ils vont dénoncer des groupes entiers d'hommes, des hommes. Alors là, ça ne va plus du tout. Quand un inquisiteur arrive quelque part et qu'il est annoncé, en général, les villages, à ce moment-là, ils se vident, les femmes s'enfuient. Elles savent très bien qu'elles vont être accusées systématiquement parce que ce sont des femmes de sorcellerie. Bon, à ce compte-là, le pays va complètement se dépeupler. Et on a encore besoin des femmes. Et puis, on voit des voix qui s'élèvent contre la torture en particulier. Et puis, des doutes apparaissent sur la validité des aveux des sorcières. Des médecins vont considérer que les prétendues sorcières sont en fait des malades qui inventent, qui imaginent toutes ces histoires qu'elles racontent. Ce sont des hystériques. Hein. Ce sont des femmes, donc la maladie leur vient de l'utérus. C'est pour ça que toutes les femmes sont des sorcières potentielles dans la mesure où elles ont toutes un utérus. Alors, les procès, ça ne peut plus durer, surtout depuis que les hommes sont atteints eux aussi, que maintenant il y a des sorciers. Et donc, les procès sont interdits dans toute l'Europe à la fin du XVIIe siècle, mais les hommes ont toujours peur des femmes. Ça ne leur passe pas comme ça. Ces êtres qui sont d'une nature si différente de la leur, eux qui représentent la pleine humanité. La solution ne consiste plus à les éradiquer, mais à les soumettre. Donc les États, on est à l'aube, et en particulier avec Baudin qui va le théoriser, de l'idée de souveraineté, l'idée d'État, eh bien, ces États commencent à prendre leur indépendance par rapport à l'Église, et ils vont parvenir à soumettre les femmes, tout simplement, par la loi, édictée et sanctionnée par eux, puisque c'est eux qui font la loi. Et puis en France, eh bien, vous savez, le Code civil de 1804 va mettre l'épouse sous tutelle du mari, ce qui va couronner en France l'évolution. Donc je vais terminer. Alors les lois se sont assouplies, mais il subsiste encore dans le langage tous ces stéréotypes qui ont été véritablement cristallisés à cette époque, une certaine image de la femme un peu sorcière. Et alors évidemment la question que vous me poserez, c'est pourquoi les femmes ? Alors les femmes ont été véritablement analysées, disséquées par les médecins, beaucoup plus, même l'Église elle-même et les théologiens se réfèrent beaucoup au discours médical, et donc c'est la nature de la femme, qui n'est pas celle de l'homme, la nature de la femme qui fait qu'elle est une sorcière potentielle à cause de toutes ses faiblesses. Ces faiblesses lui viennent donc de l'utérus, et un médecin du XVIe siècle va expliquer tout ça, et en particulier sa lubricité congénitale, qui est le propre de la femme, selon eux, c'est qu'il y a des vapeurs qui se forment dans l'utérus, qui remontent de l'épine dorsale jusqu'à la tête. Et ces vapeurs, évidemment, engendrent toutes sortes d'instabilités qui fait que la femme, elle est un peu folle, elle est instable et en même temps hypocrite parce que l'utérus, il est à l'intérieur du corps alors que l'homme exhibe ses organes sexuels comme une fleur qui fleurit, dit-on au Moyen-Âge. Ces vapeurs expliquent la lubricité de la femme. Ça explique aussi que la femme n'a pas beaucoup. D'ailleurs, on va vous montrer que son cerveau est plus petit, c'est ça encore beaucoup plus tard. La femme est une imbécile. Alors, il faut bien prendre le mot imbécile dans le sens propre du terme de l'époque. Ça vient du mot bécillus, qui en latin veut dire bois, et en français, vous avez le mot béquille. Imbécile, ça veut dire sans bois, sans bâton. La femme, elle n'a pas de pénis, elle est sans bâton, et évidemment, en vertu des rapports entre le physique et le moral, évidemment, elle n'a pas non plus de tête, et c'est le mot imbécile actuel que vous connaissez. Alors, je vais juste vous lire, pour vous dire que c'est véritablement la mentalité de cette époque et du XVIe siècle, la façon dont Rabelais, qui est lui-même médecin, vous le savez, explique évidemment cette mentalité, les multiples turpitudes des femmes qui lui viennent de leur nature. Ces humeurs sales, vitreuses, âcres, mordicantes, chatouillant amèrement, ébranlent tout le corps et rendent les femmes forcenées à tenter par tout moyen d'apaiser leur furie sexuelle. Je terminerai par là-dessus.
Voilà. Merci.
C'est très difficile d'avoir des statistiques. Ils donnent des chiffres précis du nombre des procès qu'ils ont faits quand il s'agit du magistrat de l'encre ou de tel ou tel inquisiteur. Ils donnent vraiment des chiffres très précis et puis les prénoms et les noms des sorcières. Mais les trois quarts du temps, la procédure elle-même, ils ne sont pas idiots. Les juges, ils doivent se douter que ce n'est quand même pas très net leur histoire. Donc les actes de la procédure sont jetés au feu avec le... Alors, on a quand même des questionnaires qui sont faits, bon, etc. Mais on ne sait pas exactement. Alors ça varie énormément selon les historiens. Plusieurs centaines de milliers, au moins 100 000, et certains vont jusqu'au million. Il faut savoir que, par exemple, Vardo est une petite île la subarctique, c'est-à-dire l'île plus au nord de la Norvège, où je devais aller, mais il y a eu le Covid, où il y a une île avec un musée des sorcières dessiné par Louise Bourgeois. Hein, et donc on est vraiment à l'extrême nord, dans une toute petite île, et... là, les sorcières sont noyées. Enfin, c'est-à-dire que si on les jette à l'eau avec une pierre, si elles tombent, c'est qu'elles sont coupables. Ou l'inverse, enfin, de toute façon, elles sont destinées à mourir. Hein. En Angleterre, on a plutôt l'habitude de pendre. On voit ça aussi jusqu'en Islande. C'est très difficile d'avoir des statistiques. Et si on écoute Bodin ou les autres qui donnent juste une proportion, 10 sorciers pour 50 ou 500 sorcières, c'est très approximatif.
Et dans les pays du Sud, parce que vous avez fait...
Ah ben, il y a l'Espagne, voilà. L'Espagne et le Portugal. Alors, là encore, c'est un autre cas, l'Espagne et le Portugal, parce qu'il y a des spécificités locales. L'Espagne qui vient de rendre justice à une sorcière qui a été brûlée, mais dans le nord de l'Espagne, il y a quelques mois. Hein. L'Espagne, c'est particulier parce que l'Espagne, elle a affaire à deux problèmes, les Juifs et les morts. Les morts, M-A-U-R-E-S, les Arabes. Hein. Elle va... plutôt concentrer ses forces là-dessus, et les sorcières arrivent après. Mais il y a évidemment des sorcières en Espagne, avec un célèbre procès dans le nord de l'Espagne qui va durer 3 jours, avec une grande procession où les femmes accusées vont défiler avec des verges, vont chanter, etc. Ensuite, on va les brûler. Enfin, c'est une fête énorme qui a un retentissement également énorme de l'autre côté de la frontière. En France, de part et d'autre de la frontière, on veut toujours faire mieux et plus beau que Outre-Pyrénées.
Pourquoi en particulier les femmes de marins qui allaient pêcher ou chasser la baleine? Et ma question est précise parce que je me souviens avoir vu un film sur les sorcières dont le titre m'échappe en ce moment, où elles étaient précisément jeunes et très jolies et qu'elles étaient femmes de marins. D'où vient cette association de la sorcière en tant que femme de marin plutôt que d'autres?
Alors, c'est une association qui est faite, là encore c'est local, hein, qui est faite au Labour, hein, qui est une partie du sud-ouest, simplement parce que ces familles vivent de la pêche. Donc les femmes sont effectivement jeunes et jolies, et alors elles sont 6 mois de l'année toutes seules, et c'est elles, d'ailleurs les noms des propriétés sont les noms des femmes, hein. Au Pays Basque. Hein. Elles gèrent complètement la famille, la vie, le potager, enfin bon. Elles sont très, très indépendantes. Et alors, nous disent les magistrats qui vont les juger, elles vont se baigner toutes nues. Alors là, c'est véritablement innommable. Et donc, on voit bien que ce sont des filles lubriques. Et elles ne souhaitent qu'une chose, elles sont tellement bien. Les sorcières, dans leurs aveux, racontent que quand le mari marin revient, il chique tout le temps, il sent mauvais, il est pas tellement bon à quelque chose, même pas au sexe. Bon, enfin, finalement, c'est pas une affaire. Donc, les magistrats ont conclu qu'elles cherchent à se débarrasser de leur mari encombrant. Donc, elles vont provoquer des tempêtes, des naufrages, où vont périr leur mari.
C'est pas dans d'autres types de croyances où c'est vraiment très lié au christianisme, enfin...
Géographiquement, c'est déjà énorme. Hein. Il se trouve que parmi les chrétiens, ça s'arrête vraiment à l'Europe. Hein. On ne voit pas ça à l'Est, les orthodoxes, on ne voit pas ça. C'est vraiment catholique, repris par les protestants. Et puis, c'était ça, effectivement, je crois que ça s'arrête, on peut dire, avec la dernière sorcière brûlée qui est en Suisse.
Et exportée dans le monde espagnol, en Nouvelle-Amérique.
Oui, j'ai parlé des sorcières de Salem parce que tout le monde connaît. Il y a également... ce type de procès au Canada, au Québec en particulier, mais pas seulement. Et puis, il y en a en Amérique latine. Je sais qu'il y en a. Moi-même, j'ai pas... Et puis, je parle pas espagnol non plus. Mais bon, c'est apporté par l'espagnol, c'est occidental. Hein.
Hier, c'était donc la fête des sorcières en Italie,
oui.
Qu'on appelle là-bas la Befana.
La Befana.
J'ai bien compris que c'était des femmes jeunes, jolies, bon, parce que c'était plus agréable. Est-ce qu'en plus, ce sont des femmes fortes puissante. Est-ce que ça peut tomber sur des petites jeunes filles peut-être riches, mais un peu calmes, effacées, ou est-ce que c'est
n'importe qui. C'est n'importe qui. C'est qu'il y a quand même quelques vieilles dans le lot, de même qu'il y a quelques hommes aussi. Hein.
Vous avez fait allusion tout à l'heure à un film. On peut parler d'un magnifique film de Karl Dreyer qui s'appelle Le jour de colère, qui est le plus beau film qu'on puisse imaginer sur l'arbitraire, le procès de sorcière qui sert des intérêts particuliers, éventuellement.
Ces procès sont la preuve, comme vous le disiez, de l'imagination sexuelle débridée des hommes. Les aveux spontanés ont été soufflés.
Il y a trop d'uniformité dans les aveux. Elles disent les mêmes choses. Donc.
Y a-t-il un lien entre sabbat et shabbat?
Ben, je pense que le lien, c'est le nom. Oui. Il y a eu aussi un rapprochement entre les sorcières et les juifs, et les réunions des juifs.
Les accusations portées aux juifs dans tous les siècles d'être à l'origine de tous les maux, de diffuser la peste, de faire ceci, de faire cela.
De manger les enfants, voilà. Etc. Mais ce qu'il faut bien distinguer quand je vous parlais de consentement, parce que c'est une question que vous ne m'avez pas posée, la différence avec la possession. Dans le cas de sorcellerie, la femme consent, elle est d'accord. Et d'ailleurs, il y a tout un interrogatoire. Le diable ne doit pas accepter une sorcière qui aurait moins de 12 ans, l'âge de raison pour eux. Il doit demander à plusieurs fois à cette personne, quand elle est au-delà de 12 ans, si elle est bien d'accord. Hein. Donc, la sorcière, elle a fait son propre malheur. Donc, et comme c'est irrémédiable, on ne peut que se débarrasser d'elle. Dans le cas de la possession, c'est le diable qui vous rentre dedans. Vous avez des spasmes, vous faites toutes sortes de contorsions, et vous n'arrivez pas à vous débarrasser du diable. On dit de ces femmes qu'elles sont des énergumènes, c'est-à-dire ergos, elles ont le travail en elles, le diable travaille à l'intérieur d'elles, et donc ce sont des pauvres victimes du diable, et donc il faut extraire le diable de ces femmes, d'où le rôle des exorcistes. Or, les exorcismes existent toujours. Il y a même de nouveaux exorcistes qui ont été nommés. Hein.
Indépendamment du fait que les armes de l'Inquisition sont désormais inemployées, est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue dans les rapports de genre sur cette période-là qui justifierait le fait que par rapport à avant, il y aurait la nécessité, ou en tout cas une justification artificielle?
Je me suis posé la question, c'est encore une fois de plus mon interprétation, mais la période 15e-16e siècle, sur le plan économique, c'est une période où tout s'ouvre, le commerce, il y a les grandes foires, etc. L'unité familiale à la ferme, hein, à l'exploitation agricole, c'est l'homme, la femme, ils se partagent le travail, l'homme va plutôt à l'extérieur, elle s'occupe plutôt de la basse-cour et des enfants, etc. Mais la femme commence à aller à l'extérieur de la maison. Pour deux raisons, oui, pour l'exploitation n'est pas assez rentable pour faire vivre la famille et le mari est très souvent amené à partir comme saisonnier autre part, donc la femme va gérer, est indépendante, mais surtout, il commence à se créer des petits commerces au village, en ville, etc. La femme acquiert une certaine indépendance. Elle n'a pas décidé, je vais être autonome, je vais être indépendante, je ne veux plus dépendre de mon mari. Ça s'est fait comme ça. Les hommes le vivent très mal. Et puis, il faut voir qu'à tous les niveaux de la société, on voit une montée des femmes, encore une fois, pas exactement fortuite, mais un petit peu. Si je vais au niveau politique, l'Europe au XVIe siècle, c'est bourré de reines. Marie Tudor, Élisabeth Tudor, en Écosse, Marie de Hongrie, et puis alors la bête noire de Jean Bodin, justement, la régente Catherine de Médicis. Hein. Les femmes sont au pouvoir. Bodin va se lâcher contre la gynécocratie. C'est des louves assoiffées de sang qui non seulement violent, mais tuent leur mari. Enfin. Il y a effectivement une visibilité des femmes et pas une prise de pouvoir, parce qu'encore une fois, ce n'est pas du tout conscient. Mais il y a quelque chose qui se passe. Et quand on regarde la liste des métiers, à la fin du Moyen-Âge, c'est très intéressant, parce que c'est des métiers qui ont plus courage aujourd'hui. Ben, ce sont des métiers qui sont aussi pour les femmes. Par exemple, vous avez brasseur et brasseuse. Bon, voilà, et tout se passe très bien, mais ça ne plaît pas beaucoup aux hommes, ça ne plaît pas beaucoup aux maris. D'où le fait que, petit à petit, les femmes vont être littéralement virées, interdites de ces métiers, jusqu'à être interdites, ça va beaucoup les déranger quand même, d'être serveuses dans les tavernes. Et puis vous voyez que ce mouvement est tenace, puisque ces métiers continuent d'être interdits au XIXe siècle. De toute façon, au XIXe, la femme, après le code civil, il faut qu'elle ait l'autorisation du mari. Enfin bon. jusqu'en 1967. Ah,
c'est fou.
Le film Le Nom de la Rose est-il représentatif selon vous?
Ah, moi je peux pas dire, hein, j'ai pas assez en tête. Non, mais il y a d'autres films. Il y a un film qui est sorti il y a 2 ans, qui est un film islandais, dont la principale actrice est la chanteuse Björg. On peut le trouver en...
Ah oui. C'est Le Temps où nous étions sorcières.
C'est très très beau, avec des paysages. Alors, le DVD est disponible chez Capricci. Et puis, il y a un petit bonus après le film, et ils m'ont demandé de faire le bonus.
Ah, très bien. Et donc, le film est en ligne en ce moment sur le site d'Arte.
D'accord. Très, très beau film.
Il y a de très belles sorcières en ce moment au musée Jacques Parandré, dans l'exposition de Fuseli.
Je crois que nous allons arrêter ici, en vous remerciant très, très vivement. Merci.